Attention! This is a message.
You'd better run along before a storm breaks.
Et oui, ça y est Clément, on l'a fait, la France l'a fait.
Mais quoi exactement Céline? Qu'est-ce qu'on a fait
encore?
Mais
attends, on l'a vendu, encore et encore, et à l'Inde en plus.
Mais on a vendu quoi? Je suis pas sûre de bien saisir.
Attends, mais est-ce que tu suis l'actu un peu ou pas?
Bah je crois, oui.
C'est le Rafa, bien sûr, bon.
Ah.
Laisse-moi te mettre au courant.
Oui, mets-moi un peu au courant.
Alors le 10 avril dernier, pour la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, François Hollande a fait une déclaration surprise. C'est confirmé, New Delhi commande 36 Rafales à la France, notre plus célèbre avion de chasse et aussi un de nos échecs industriels parmi les plus cuisants.
Oui, c'est devenu une légende le Rafale hein, et pas vraiment une bonne légende.
Alors, je te l'accorde Clément et on va reprendre tout ça du début pour nos auditeurs.
Oui, faisons ça.
Alors le Rafale, c'est du made in France comme l'aime Arnaud Montebourg. Il est assemblé près de Bordeaux, ce qui a donné une bonne occasion à Alain Juppé de s'auto-congratuler sur Twitter le 10 avril dernier. Et il est aussi fabriqué à 20% dans le Val d'Oise du député socialiste Philippe Doucet à Argenteuil exactement. Alors ce Rafale fait travailler en France environ 7000 personnes chez Dassault et ses 500 sous-traitants aussi. Alors
n'est pas rien.
C'est vrai. C'est le sixième avion de chasse en fait conçu par Dassault Aviation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à raison d'un nouveau modèle lancé tous les 10 ans.
Ah oui, quand même.
Alors en fait, le projet naît d'un désaccord entre les Européens, tiens donc, sur un modèle commun d'avion de chasse et se trouve lancé officiellement en France en 1988. Il succède ainsi à des illustres prédécesseurs, je nomme l'Ouragan, le Mirage 3, le Mirage 4, le Mirage F1 et le Mirage 2000. C'est Marcel Dassault qui a trouvé le nom Marcel Dassault père qui a trouvé le nom du Rafale avant sa mort. Sans doute, dans son esprit, cela faisait-il référence au Rafale de vent, comme l'indique un proche de la famille. Vous admirez l'originalité.
Effectivement, mais Céline, on pourra en revenir à sa commercialisation.
J'y arrive tout de suite, Clément.
D'accord.
Alors, le Rafale, c'est très simple. Il a déjà pris 10 ans de retard sur le programme initialement prévu. Les premiers avions de son livret comptent 2006 et l'État doit parallèlement réviser ses premiers besoins à la baisse. Ce qui est une mauvaise nouvelle donc pour le constructeur. Mais ce n'est que le début. Les premières critiques attaquent ses coûts de fabrication. Donc, de prix de 30 ans, il aurait coûté à chaque Français environ 500 euros.
Ah oui.
Alors bon, précision utile, je tire ces chiffres d'un papier des Échos qui compare aussi le coût du concurrent américain du Rafale, soit 5000 euros par américain. On est vraiment dans un autre ordre de grandeur.
On voit la puissance militaire et industrielle.
C'est vrai. Mais ce qui plombe vraiment notre avion de combat, c'est l'échec des exportations à l'étranger. C'est-à-dire que depuis les années 2000, le Rafale se fait systématiquement, alors je dis bien systématiquement, détrôné par ses concurrents étrangers, alors qu'il est le plus sophistiqué sur le marché. Alors, la faute à qui? Eh bien, sans doute parce que la France n'a pas le même poids qu'un géant comme les États-Unis pour peser dans les négociations. Et puis aussi parce que le Rafale n'avait pas encore fait ses preuves.
Attends, t'es en train de nous dire qu'on a essayé de vendre un avion de combat qui n'a jamais mis les pieds dans une zone de guerre?
Oui, mais en fait non, ça c'était avant.
Ah.
Dans l'industrie de l'armement, vois-tu, on a des principes. Un avion de combat n'est jamais vendu avant qu'il ne soit en service dans l'armée de son pays. Ce qui va devenir le cas au milieu des années 2000 avec la France. Sauf qu'en fait, ça n'a pas plus encouragé les acheteurs. En 2007, la France subit quand même un échec retentissant avec le Maroc, qui lui préfère les chasseurs américains. Et en 2007, vous vous en souvenez, c'est Nicolas Sarkozy qui est au pouvoir et qui décide, ni une ni deux, d'installer une war room à l'Élysée pour vendre coûte que coûte les Rafales.
Ouais, c'est devenu une question d'honneur. Hein.
C'est ça.
Et ça a fini par marcher ou pas?
Alors non, Clément, et c'est ça qui est drôle avec les Rafales en fin de compte. On dirait du comique de répétition en fait.
Oui, un petit peu.
Nicolas Sarkozy veut vendre ses avions de chasse partout où il va, au risque de braquer ses interlocuteurs, alors camouflé au Brésil, échec auprès des Émirats Arabes Unis, il va même jusqu'en proposer 14 à Muammar Kadhafi de passage à Paris, qui lui aussi les a refusés.
Ah bah c'est de l'acharnement, dis donc. D'où cette malédiction du Rafale.
Oui, alors mais cette malédiction, depuis cette année, c'est bien François Hollande qui semble la conjurer. Alors on peut penser que sous ses airs nonchalants, notre bon président est en fait un commercial impitoyable, ou alors chercher des causes dans les changements géopolitiques récents. Déjà en début d'année, en février, la France a conclu la vente de 24 exemplaires à l'Égypte du général Sissi, auxquels viennent donc s'ajouter les 36 avions vendus récemment à l'Inde. On reparle même du contrat avec les Émirats Arabes Unis qui se détournent en fait des Américains suite au rapprochement de ces derniers avec l'Iran et qui cherchent donc à s'armer. Alors c'est en fait un peu la même chose pour l'Égypte et pour l'Inde qui veulent maintenant diversifier leurs fournisseurs. En un sens donc, on peut dire merci aux Américains.
Et en France, alors, elle a été prise comment, cette annonce ?
Alors évidemment, la droite et la gauche se félicitent en cœur. J'ai déjà parlé d'Alain Juppé et de Philippe Doucet. Et on pourrait en fait multiplier les messages de chauvinisme de tous bords avec peut-être un peu de réserve de la part de la droite, qui rappelle que, bien sûr, ces accords ont été obtenus grâce à un énorme travail en amont, au mandat précédent de la droite.
Évidemment.
En plus, l'État français pourra se permettre d'acheter moins d'avions à Dassault puisqu'ils sont réservés à l'exportation. C'est donc une économie en fait non négligeable pour les comptes publics. C'est aussi une excellente nouvelle pour l'industrie de l'armement française, une industrie qui depuis début 2015 voit ses ventes exploser. Alors on peut quand même toujours compter sur les écologistes pour râler ou faire les rabat-joie. Emmanuel Cos, par exemple, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, a traité le Rafale de, je cite, « ratage industriel », c'est quand même un peu fort,
oui.
Et a fait remarquer qu'on ne les vendait pas aux pays les plus démocratiques du monde. Et là, c'est moi qui euphémise.
Oui, tu euphémises un petit peu, effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire alors, Céline ?
Alors, d'un point de vue éthique, absolument rien. Et je ne m'y engagerai pas d'un point de vue politique.
Ce sera pour un autre numéro.
C'est vrai. D'un point de vue politique, par contre, et pour l'image de la France, on peut dire plus de choses. Car la France, en fait, a toujours eu du mal à conclure des contrats à l'étranger, avec, entre autres, des réacteurs d'arrivée en Inde, des centrales nucléaires aux Émirats Arabes Unis, encore eux, une ligne TGV et un centre de traitement de déchets nucléaires en Chine, des frégates à la Grèce, donc. Ce sont tous des projets en fait plus ou moins avortés ou en panne en ce moment. Et les technologies françaises, en fait, malgré notre savoir-faire, sont difficilement exportables. Soit à cause de concours de circonstances plutôt malheureux, par exemple Fukushima, ou à cause de vraies bévues diplomatiques, en l'occurrence le Brésil en 2007. Il ne reste pas moins que se pose aussi la question du transfert de technologies. Par exemple, pour le récent contrat des Rafales, donc avec l'Inde, le président indien avait exigé la mise en place d'une chaîne de fabrication en Inde avec près de 500 sous-traitants, ce qui faisait vraiment monter la facture.
Oui.
Et comme il n'a pas cédé sur ce point, Dassault a vu sa commande passer de 176 à 36 Rafales. La concurrence est donc relancée. Et puis, il y a aussi des différents politiques qui s'interposent. Le Mistral, par exemple. Ça dit quelque chose, Clément ?
Rafraîchis-moi un peu la mémoire.
Alors, la France en a promis à la Russie, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui, François Hollande se refuse à les livrer, ce qui pourrait nous revenir extrêmement cher. On parle quand même de près d'1 milliard d'euros de dédommagement qu'on devrait verser à la Russie.
À peu près 3 musées des confluences, quand même.
Chers auditeurs, rappelez-vous les confluences. Et aussi, en même temps, ça pourrait gravement entacher la fiabilité de notre industrie de l'armement. On ne sait pas trop, en fin de compte, ce qui est le pire. Et puis, c'est un dossier à suivre, évidemment.
Oui, évidemment, un dossier à suivre. Merci Céline pour ton édito. Tu n'es malheureusement pas avec nous pour la discussion. Mais la discussion aura quand même lieu, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. On retrouve maintenant Maëlys. Maëlys, on te retrouve pour ton édito qui nous emmène en Méditerranée.
Coucou Clément. Alors moi, je ne suis pas très douée pour les chroniques sérieuses et tristes. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors moi, aujourd'hui, je vais revenir sur les drames de ces derniers jours qui ont mis la presse et l'Europe sans dessus dessous. Je veux bien sûr parler des naufrages de bateaux de migrants en Méditerranée, notamment celui qui, dans la nuit de samedi à dimanche, a fait plus de 800 victimes qui fuyaient la misère et qui tentaient de rejoindre l'Europe. C'est 4 fois plus que la tragédie aérienne de Germanwings le mois dernier. Et au total, 1600 personnes sont mortes noyées depuis janvier en Méditerranée. C'est plus que le Titanic.
Oh la vache.
Alors que l'immigration par la Méditerranée et les drames qu'elle implique n'avaient droit jusqu'à présent qu'à quelques lignes dans les journaux, régulièrement certes depuis la catastrophe de Lampedusa en octobre 2013 qui avait fait 350 morts, mais n'accédaient jamais au statut de grande catastrophe méritant la une sur plusieurs jours, leur traitement médiatique a soudainement changé. On n'a plus de mots assez forts dans la presse pour qualifier l'hécatombe et pour pointer du doigt l'inertie européenne. Ainsi, dans un article paru sur Rue89, pour Noël ma mère, l'Europe est au mieux coupable de non-assistance à personne en danger, au pire de crimes contre l'humanité, l'expression est lourde de sens. Chacun désigne un coupable. Pour Hollande, qui était l'invité du supplément de Canal+, dimanche, ce sont les passeurs, qualifiés de terroristes. Matteo Renzi, chef du gouvernement italien en première ligne, les a également qualifiés dimanche d'esclavagistes, pratiquant un racket criminel à détruire de toute urgence. On aurait envie de leur dire « et les migrants ont tout ça ?» Lorsqu'on est prêt à dépenser 5000 euros pour fuir son pays, à risquer sa vie une fois, deux fois, 10 fois ou 100 fois, s'il le faut pour monter dans un rafio vers l'inconnu, c'est que la situation est catastrophique en amont. Le commerce morbide et criminel des passeurs n'est que la résultante des inégalités nord-sud, des conflits et des violations systématiques des droits de l'homme qui ravagent l'Afrique et le Moyen-Orient, sans susciter de réactions concrètes de la part de l'Union européenne. Ce matin sur France Inter, la journaliste Léa Salamé accusait, elle, Bernard-Henri Lévy et Nicolas Sarkozy, alors président de la République, d'avoir renversé le gouvernement de Muammar Kadhafi et déstabilisé le régime politique qui, je cite, « faisait le boulot », entre guillemets. en arrêtant les migrants et en endiguant leur départ sauvage et désespéré des côtes libyennes. Là aussi, on peut tout de même se demander si se reposer sur des dictatures pour empêcher les réfugiés et les migrants d'arriver à nos frontières est une solution. Certes, moins meurtrière, mais plus louable et pérenne que de fermer les yeux ou de secourir ceux qui embarquent. Du coup, autre question, l'Europe ne devrait-elle pas intervenir dans les conflits politiques et humanitaires qui ravagent le monde ? Me direz-vous ? La réponse semble tout aussi ardue. On reproche l'intervention des Occidentaux en Libye et au Mali, et leur non-intervention en Syrie d'autre part, soit leur ingérence géopolitique et leur absence de réaction. Aucune stratégie miracle à 100%, et on est tout aussi avancé de ce côté-là. Les ONG accusent l'Europe et la mission Triton mise en place par l'Agence européenne de protection des frontières, Frontex, quel joli nom, à la mi-octobre. Alors que l'Italie n'en pouvait plus d'assurer seule les vagues de migration par bateau avec la grande opération de sauvetage et de soins d'urgence Mare Nostrum, mise en place après la tragédie de Lampedusa, l'Europe ne lui a substitué qu'une mission aux moyens bien moins importants, misant sur la répression et les contrôles des frontières maritimes, en complet décalage avec le drame humanitaire que représentent les migrations. Si l'Europe a sans conteste failli dans sa mission de protéger les vies et de porter secours aux migrants, se contenter de sauver des vies dans l'urgence n'est peut-être pas une solution durable si elle ne peut être une solution durable si elle n'est assortie à une politique internationale globale, le gros point faible de l'Europe dont les membres n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur une stratégie commune. L'Europe est encore montrée du doigt par les spécialistes et le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui lui reproche de ne pas prendre sa part de responsabilité en délivrant des visas au compte-gouttes pour les réfugiés qui fuient leur pays en guerre. Depuis dimanche, on entend le discours soudain à la mode, d'où l'ouverture totale des frontières pour des personnes physiques, telle qu'elle est pratiquée pour les biens ou les capitaux. Lino en parlera plus que moi. Cette solution serait économiquement viable à long terme et n'entraînerait peut-être pas un afflux massif, le fameux appel d'air tant redouté en Europe, selon certains les économistes que tu as cités tout à l'heure, Clément. Néanmoins, les pays européens s'y refusent. On peut également s'interroger sur la situation économique et sociale qui en résulterait à court et moyen terme et sur la manière dont les populations européennes réagiraient à l'heure de la montée des extrêmes, certains conflits étant aussi charriés par les migrants eux-mêmes. La semaine dernière, 12 chrétiens originaires du Nigeria et du Ghana auraient été jetés par-dessus bord par leurs compagnons musulmans, obligeant les autres chrétiens du bateau à constituer une chaîne humaine pour ne pas connaître le même sort. Ce crime isolé a fortement ému l'Italie et n'a pas manqué de faire le jeu de l'extrême droite dans le contexte explosif actuel de la montée du djihadisme. Bref, face à tous ces dilemmes, à toutes ces accusations, qui fleurissent, face à la vague d'indignation facile aussi venant des médias qui semblent découvrir un phénomène qui n'est pourtant pas nouveau, il nous reste à nous interroger sur nous, notre indifférence de citoyens européens. On se demande pourquoi tant d'indifférence à l'égard de ces migrants et pourquoi si peu de mobilisation pour les défendre. Peut-être parce que malheureusement on s'identifie plus facilement à quelqu'un qui achète ses billets et qui meurt dans un accident d'avion en rentrant de vacances, plutôt qu'à quelqu'un qui risque le tout pour survivre, alors que le tour d'esprit inverse serait nécessaire, voire salutaire.
Serait-on un peu trop habitué au confort en Europe ? On en reparlera en tout cas. Merci Maëlys. Alors maintenant, chers auditeurs, on va lancer la dernière partie de notre émission, une dernière partie qui devient traditionnelle, vous y êtes habitués. C'est parti pour la discussion.